Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap thématique, les libertés publiques et le col de Banyuls. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de liberté. Une liberté qui se raréfie tous les jours un peu plus, c'est le plus extraordinaire, et certainement que personne ne semble s'en formaliser. Nous glissons progressivement, par souvent des petits riens, dans ce que l'avocat et écrivain François Sureau appelle, et je le cite, « l'extase sécuritaire ». Alors pour illustrer ce propos, j'ai choisi de prendre comme exemple un de ces petits riens que j'évoquais à l'instant, la fermeture d'une route, le blocage d'un col, conduisant vers l'Espagne, le col de Banyuls. Une décision unilatérale de l'État, sans aucune concertation, ni avec les populations locales, ni même avec nos voisins espagnols. La liberté de circulation de dizaines de gens, locaux, touristes, est purement et simplement confisquée par la puissance publique. Pour quelles raisons ? Dans quel but ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble en interrogeant les acteurs locaux, le maire de Banyuls, Jean-Michel Solé, le président de l'association qui milite pour la réouverture de ce point de passage essentiel pour la région, Pierre Bec, et le plus proche habitant du col, et bien sûr l'État. L'État, nous terminerons par l'État, en la personne du préfet des Pyrénées-Orientales. Mais avant, on va essayer de se situer. Qu'est-ce que le col de Banyuls ? Alors le col de Banyuls, c'est un col de montagne du massif des Albères, pas très haut, hein, est à peu près à 355 mètres d'altitude, et c'est un lieu de passage transfrontalier entre la France et l'Espagne. Ce col, anciennement appelé col d'Espils, a donné son nom aux deux peuplements situés sur chacune de ses versants, sur chacun de ses versants, les Abeilles et Espol, dit Espolla. Le nom d'Espils lui-même vient sans doute de specula, c'est un nom latin pour tour de guet, turris speculatoria. Vous savez qu'il y a beaucoup de tours de guet qui permettaient de prévenir les habitants de l'arrivée de ce qu'on appelait autrefois la barbaresque. Alors ce col de Banyuls relie Banyuls-sur-Mer, commune française du département des Pyrénées-Orientales, qui est dans la région d'Occitanie, en Catalogne, rejoint donc Banyuls à Espoy, qui est dans la commune de la Comarque, en Catalogne espagnole. Il se trouve côté espagnol sur le territoire d'une commune qui s'appelle Rabós. Ce massif des Albères, donc, qui a une altitude relativement modeste, hein, 355 mètres, c'est pas. Enfin, on arrive, c'est le fond des Pyrénées, là, qui plonge vers la Méditerranée. Mais c'est surtout un point de passage historique qui est utilisé vraisemblablement depuis toujours, au moins depuis l'Antiquité. C'était un des passages possibles de la voie héracléenne et probablement des passages secondaires de la voie domitienne, ce qui nous ramène à nos amis romains. Plus tard, les troupes espagnoles qui ont voulu récupérer la région du Roussillon tentent une invasion en 1793 dirigée par le général Ricardos. Et il y a bataille. Il y a bataille parce que les locaux se battent. Il va y avoir au col de Banyuls une guerre assez limitée, mais une guerre quand même. Et les habitants vont faire reculer les Espagnols. Et puis après, en 1939, vous le savez, les réfugiés espagnols durant la retirade qui fuyaient la dictature de Francisco Franco, les républicains, sont entrés en masse par ce col. Et inversement, parce qu'il faut regarder dans les deux sens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui refusaient le travail obligatoire ou même des juifs persécutés, notamment, tiens, citons par exemple Boris Rion, Joseph Kessel, ont fui par ce point frontalier dans l'autre sens pour échapper aux persécutions françaises. Et alors, en janvier 2021, l'autorité administrative, le préfet en l'occurrence de l'époque, prend un arrêté pour fermer ce col afin de lutter contre le trafic, nous dit-on, le terrorisme et l'immigration illégale, vaste programme. Cette fermeture rencontre une forte opposition des habitants, catalans français et catalans espagnols. Et comment a-t-on fermé cette route ou ce col ? Tout simplement avec quatre gros blocs de pierre posés sur la route, mais qui n'empêchent pas certains véhicules de le contourner, qui n'empêchent pas le passage à pied, à cheval, en vélo, en moto et tout ce que vous voulez. En août 2022, une demande de rouverture est refusée. Et le préfet, le nouveau préfet qui vient d'arriver dans les PO, est venu sur place, ce qui est, on va dire, une preuve d'ouverture pour comprendre ce qui se passe, réévaluer la situation et discuter tant avec la mairie qu'avec l'association qui milite pour la réouverture de ce col. Alors je vous propose d'écouter d'abord Jean-Paul, pardon, que je n'écorne pas son nom, Jean-Michel et pas Jean-Paul, il m'excusera, Jean-Michel Solé, le maire de Banyuls. Écoutons-le, écoutons son point de vue d'un maire un peu désappointé, désabusé et en colère. Jean-Michel Sonnet, bonjour, vous êtes le maire de Banyuls. Maire de Banyuls est donc très proche de ce col de Banyuls qui a été fermé par l'autorité administrative. Vous pouvez nous donner votre sentiment sur cette fermeture, ses raisons, et puis nous expliquer un peu la gêne que ça peut causer aux habitants de Banyuls et même d'ailleurs aux Catalans espagnols.
Alors, mon sentiment, c'est une très grande frustration et une incompréhension. Une incompréhension pourquoi on a fermé ce col. D'abord, pour résumer, qu'est-ce que le col de Banyuls ? Le col de Banyuls est inscrit comme le chemin de la liberté. C'est par là que sont passés les Espagnols, les Républicains, dont je suis un fils de Républicain, qui sont passés par le col de Banyuls. C'est par là que sont passés les aviateurs, les juifs, les gens persécutés par le régime nazi. Ça a toujours été un endroit d'échange et un endroit où on a permis de s'évader, de fuir l'oppression à tout un tas de personnes persécutées. Donc symboliquement, c'est très fort dans l'esprit, dans la mémoire des Banyolins et des gens de la Catalogne Nord comme Sud. Deuxièmement, c'est un lieu d'échange, puisque beaucoup de Banyolins sont venus de la montagne, beaucoup ont de la famille dans les villages à côté, Espoir, Abos et d'autres, mais aussi beaucoup de gens d'Espoir, Abos sont de la famille à Banyuls-sur-Mer. Donc il y a cet échange, il y a des échanges culturels, puisque nous recevons souvent avec les maires des autres communes pour des bornages, pour des festivités, donc ça a coupé le lien culturel, fraternel, qu'il y avait entre les municipalités françaises et Catalogne du Sud. Et puis, économiquement, ça pèse, parce que c'est une route très sympa, très, très agréable à prendre, qui permet d'arriver à Figueras de la Côte sans passer par Argelès, le Boulou, sans passer par Portbou, et qui évite donc de longues, au moins une heure de trajet. Donc c'est dommage. Ça pèse sur l'économie de nos amis espagnols, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont faire des courses, qui vont acheter une olive, mais ça pèse aussi sur l'économie banyulenque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui résident d'autre côté, notamment l'été, les touristes qui viennent chez nous. Ça pèse par rapport aux entreprises, parce que beaucoup de salariés, des maçons, notamment dans le bâtiment, sont des gens qui ont été recrutés en Catalogne Sud et qui viennent travailler dans l'entreprise française. Et certains ne viennent plus parce que le trajet est trop long, parce que le prix de l'essence. Ça a pesé pour les vendanges, parce qu'on a moins de main-d'œuvre espagnole qui vient travailler dans nos propriétés. Donc ça a pesé économiquement pour beaucoup de choses et ça a été un gêne considérable. C'est une incompréhension parce que le préfet est venu. Et on lui a montré, je pense que ça a été décidé par certainement des gens bien pensants, les autorités parisiennes, qui ont décidé ça sur une carte. Mais ils ne se rendent pas compte des distances. Quand on me dit que c'est pour combattre l'immigration, s'il suffisait de 4 blocs de cailloux pour arrêter l'immigration, ça se saurait. Ou pour arrêter le trafic de drogue. Donc, et en sachant que on est à 20 km de Figueras, du col de Banyuls. Donc les gens ne font pas 20 km à pied pour passer la frontière avec un baluchon sur le dos et 10 km de plus ou 15 km de plus pour arriver à Banyuls. Donc sa situation ne le permet. Il y a très peu de, même quand il était ouvert, il y a très peu de migrants qui passent par là. Les migrants, ils passent par Cerbère, ils arrivent en train, et ils prennent le bus à 1 euro et ils se déplacent dans les transports en commun. Donc ils ne passent pas par là. Voilà. Le trafic de drogue se fait très peu là. Voilà. Donc il y a une incompréhension de la population, tout en sachant que si on voulait vérifier tout ça, Banyuls est un boulet d'arrivée des gens qui passent par Cerbère et des gens qui passent par le col. Donc il suffisait de faire un contrôle en bas et c'était aussi efficace que de barricader ce col. Donc on n'est pas content. Voilà, on n'est pas content du tout.
Eh bien j'imagine que vous l'avez dit à ce nouveau préfet, peut-être qu'il va avoir un œil un peu plus avisé que ses collègues.
On espère. On espère. Après, le préfet, il vient d'arriver, il faut qu'il prenne ses marques. Je pense qu'il fera un rapport, d'après ce que j'ai compris, plutôt favorable. Mais bon, je suis pas, c'est pas moi qui lui tiens la main, bien entendu. Mais je pense qu'il a pu parce qu'il est venu sur le terrain, donc il a pu voir, pas l'absurdité, mais le peu d'efficacité de cette mesure qui par contre contraint beaucoup les populations.
Oh, absurdité, c'est un adjectif qu'on peut employer quand même, hein. Quatre cailloux qui n'empêchent le passage de personne, si ce n'est des gens qui vont et qui viennent et qui veulent travailler ou aller faire des courses ou simplement se balader, c'est de l'absurdité, de la stupidité administrative.
Voilà, en tout cas, c'est un manque de clairvoyance. Moi, je n'ai pas employé ces termes, mais c'est un manque de clairvoyance. Et à l'heure où on nous dit qu'il faut que les décisions se prennent au plus près des terrains, avec les élus, etc., etc., je pense qu'une concertation, un échange aurait peut-être permis d'éviter ça. Ça fait 18 mois qu'il est fermé, l'école de Bagnous. Ça fait 18 mois. Ça fait deux étés qu'il est fermé. Voilà, bien. Donc c'est beaucoup.
C'est beaucoup trop surtout, et sans aucune bonne raison ni aucune efficacité sur le plan de la sécurité, qui est en l'occurrence à bon dos. Monsieur
si
le maire...
Si on était capable d'expliquer, les gens pourraient comprendre ou pas, d'accord ou pas, mais moi j'avoue que je ne sais pas expliquer pourquoi les fermer. Voilà, je ne sais pas.
Je crois que personne n'arrive à l'expliquer. Nous allons en parler tout à l'heure avec Pierre Beck, qui est le président de l'association qui s'est créée, qui a d'ailleurs embauché un avocat. Il va nous en parler pour contester cette décision. Merci en tout cas de vos explications. On va essayer de suivre ce dossier, de voir étroitement comment ça se passe. J'ai interrogé la préfecture, je donnerai sa position tout à l'heure, hein, puisque c'est une position écrite, mais qui, comme tout bon fonctionnaire d'autorité, fonctionnaire de préfecture, botte en touche en répondant à côté. Monsieur le maire, merci et certainement à très bientôt sur ce sujet. Voilà, vous avez entendu, donc, je vous l'ai dit, Jean-Michel Solé, mais il y a également Pierre Beck. Alors Pierre Beck a la faculté d'être un ancien maire de Bagnoules, donc il connaît bien le territoire, d'être également avocat et bâtonnier, ancien bâtonnier. Et vous allez voir ce qu'il nous dit. Alors je vous demande d'abord de nous excuser, mais de tendre aussi l'oreille, parce que Pierre Beck était sur la plage de Bagnoules quand nous l'avons appelé, et la liaison n'est pas toujours... d'une extrême pureté. Écoutons Pierre Beck, le président de l'association Albert Sans Frontières. Pierre Beck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, on le sait, vous êtes le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales, mais vous êtes surtout aujourd'hui le président de l'association Albert Sans Frontières, qui a pour objet principal, si j'ai bien tout compris, mais vous me corrigerez, la réouverture et le maintien de la liberté de passage au col de Bagnoules. Alors qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi ce fichu col est fermé ? Quelle en est la raison ? Et qui a décidé cela ?
Alors, ce col existe depuis, il y a un chemin depuis des temps immémoriaux. Au Moyen-Âge, c'était déjà emprunté par les habitants du monastère de Saint-Kirse pour venir chercher le sel à Bagnoules. C'est un col par lequel sont passés de multiples gens au cours du XXe siècle, des juifs réfugiés d'Allemagne, des résistants, des réfractaires au STO. Au moment de la retirade de la guerre d'Espagne, il est passé également beaucoup de réfugiés espagnols. C'est un lieu historique. Et ce lieu a été fermé à partir du mois de janvier 2021, donc il y a maintenant un an et demi, par un arrêté préfectoral du préfet des Pyrénées-Orientales. Ça n'est plus le même préfet, mais enfin, c'est une autorité administrative. Un arrêté préfectoral qui est fondé sur deux motifs: la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine. Et ça s'est traduit concrètement par la pose sur le sol, sur la route qui a été ainsi barrée, de quatre grosses pierres qui théoriquement empêche le passage, en réalité n'empêche le passage de pas grand monde, parce que les vélos, les motos, les piétons peuvent passer, et même certains véhicules arrivent à passer en contournant l'obstacle. Mais bon, ça constitue une gêne quotidienne permanente pour les gens de Bagnoules, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec quelques Bagnoulais et quelques amis de Bagnoules, de constituer cette association au mois de juillet dernier.
Ça constitue quand même une gêne, parce que ce col permet d'aller en Espagne directement. Alors on peut y aller par d'autres voies, mais beaucoup plus longues ou beaucoup plus tortueuses.
Tout à fait. C'est-à-dire que l'accès depuis Bagnoules au village de l'Empordà et à la ville de Figueras se fait par un chemin qui fait 10 km côté Bagnoules et 10 km de l'autre côté, donc 20 km. Alors que par n'importe quelle autre voie, ça représente un détour de 50 à 60 km supplémentaires, et surtout le passage par la frontière du Pertus, qui, notamment en été, est très souvent encombré en raison de la circulation sur l'autoroute. Donc ça constitue une gêne au quotidien pour tous les gens qui travaillent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Il y a beaucoup de gens de Banyuls qui vont travailler au sud, il y a beaucoup de gens du sud qui viennent travailler à Banyuls, et puis ça constitue une gêne dans le quotidien de notre existence, puisque beaucoup de familles sont implantées également des deux côtés.
Comment le préfet peut justifier, ou l'État, hein, le préfet est un pion interchangeable, nous le savons. On entendra tout à l'heure, puisque je l'ai interrogé et qu'il m'a répondu par écrit, donc on entendra tout à l'heure sa position, mais qui n'est pas très claire. Comment peut-on justifier lutter contre l'immigration illégale ou le terrorisme avec quatre cailloux ? Parce qu'on peut en faire livrer quelques tonnes à Calais à cette tonne-là.
C'est un peu ce que nous lui avons dit, puisqu'il faut mettre au crédit du nouveau préfet des Pyrénées-Orientales qu'il est venu nous rendre visite et est venu se rendre compte sur place de la situation. Donc je lui ai expliqué que, notamment pour le terrorisme, les derniers attentats dont la France a eu à subir les conséquences ont été commis par des terroristes qui venaient de Belgique. Et à ma connaissance, on n'a pas fermé la frontière depuis la Belgique. En réalité, ce sont, à mon sens, des faux prétextes. Pour ce qui concerne l'immigration, on sait parfaitement qu'il y a des chaînes d'immigration qui passent tout bêtement par la frontière entre Cerbère et Portbou et par le tunnel du chemin de fer, et qu'il n'y a aucune raison pour que les immigrés fassent un détour de 20 km à pied alors qu'ils peuvent passer par un tunnel qui fait 1 km et que personne ne surveille. Donc je pense que tout ça, ce sont des prétextes. Alors, lors de sa visite, M. Furcy, donc l'actuel préfet des Pyrénées-Orientales, m'a parlé de redéploiement des forces de sécurité. En disant, voilà, nous fermons des points de passage. Vous savez certainement qu'il existe des points de passage permanents qui sont le Pertus, Cerbère, et puis des points de passage autorisés comme le col de Banyuls et divers autres passages dans les Pyrénées. Et donc, leur décision a été de dire, nous redéployons nos forces en fermant les points de passage. Donc la conséquence, c'est que pour le col de Banyuls, il n'y a quasiment plus aucune surveillance. Et donc ceux qui veulent passer, ils arrivent à passer sans problème. Et pour ce qui concerne les autres points de passage, depuis un an et demi, nous n'avons pas constaté qu'il y ait une quelconque modification des modalités de surveillance. C'est-à-dire qu'à la frontière routière entre Cerbère et Portbou, il n'y a quasiment jamais de contrôle, quasiment jamais de surveillance. Donc c'est aussi un prétexte qui n'est pas fondé.
Alors des prétextes qui sont pas fondés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on agace volontairement la population ? Dans quel but ? Pourquoi ? Quelle raison ?
Je pense qu'il y a eu une mauvaise évaluation de la situation, que ça s'est fait de manière un peu bureaucratique, en disant, bon, on ferme les points de passage, on redéploie. Mais dans la pratique, personne n'a étudié réellement la question. Et c'est pour ça que nous avons bien apprécié que l'actuel préfet vienne se rendre compte. Après, sans vouloir faire du juridisme, on est en pleine illégalité au regard des règles européennes, parce que l'arrêté préfectoral se fonde sur les articles 25 et 27 du traité. Ces articles prévoient la possibilité, en cas de circonstances graves, de renforcer les contrôles ou de rétablir les contrôles, mais en aucun cas la possibilité de fermer des points de passage de frontières. Ça, c'est écrit nulle part. Et en second lieu, même si on applique les articles 25 et 27, il faut que la France prévienne l'Union européenne de cette décision, ce qu'elle a fait en novembre 2020. Et quand elle l'a fait en novembre 2020, elle avait annoncé que ces mesures seraient limitées dans le temps jusqu'à avril 2021. Et à ma connaissance, depuis avril 2021, il n'y a plus eu aucune démarche faite par le gouvernement français, ce qui fait que je pense que le gouvernement est dans l'illégalité totale. Et c'est d'ailleurs, si on ne trouve pas de solution politique, c'est d'ailleurs ce que nous soumettrons assez rapidement au tribunal administratif.
Oui, puisque ne bougez pas trop, Pierre Bec, parce qu'évidemment, tout le monde l'a compris, nous sommes au téléphone, on n'est pas sur la plage de Banyuls, mais on a une liaison qui est assez mauvaise. L'association a donc s'est attaché les services d'un avocat ?
Tout à fait. Donc on a eu recours à un avocat qui est déjà intervenu dans ces matières-là, qui est un avocat spécialisé en droit public, qui s'appelle Frédéric Bonnet, qui est avocat à Perpignan, dont j'avais pu apprécier la qualité dans d'autres circonstances. Et donc lui a adressé un premier courrier de mise en demeure le 4 août. Donc le préfet a jusqu'au 4 octobre pour nous adresser une réponse, et à défaut de réponse, ça nous ouvrira le délai du recours contentieux. S'il n'y a pas de réponse, ce sera considéré comme une réponse négative.
Ben, ça me semble clair, donc on va attendre le 4 octobre. En attendant, si on veut suivre ce dossier, si on veut aider l'association, comment peut-on le faire ?
La meilleure des solutions, c'est d'adhérer à l'association. Nous avons désormais la possibilité d'adhérer par voie télématique sur le site de l'association Albert Sans Frontières. Donc on peut adhérer à l'association, et pour tous les adhérents qui disposent, des moyens internet, nous communiquons très régulièrement sur les actions que nous menons. Là, dans les jours qui viennent, nous avons une action de caractère culturel dans une vieille partie du village de Bagnoux qui s'appelle le Puy-Zelmas. Nous faisons une soirée avec des gens qui vont nous lire des textes concernant le col de Bagnoux, mais concernant plus généralement les points de passage. Donc ça, c'est une soirée un peu récréative, mais qui est quand même orientée sur ce thème-là, en accord avec une autre association qui organise des veillées. Et nous avons également en préparation une action plus importante à l'occasion de la fête des vendanges à Bagnoux, c'est-à-dire que le dimanche 9 octobre, la tradition à Bagnoux, c'est d'organiser une grande fête, une grande réunion festive sur la plage, auxquelles participent tous les gens qui travaillent la vigne et tous les gens qui veulent bien venir. Et donc à cette occasion, nous aurons une action dont nous n'avons pas encore précisément limité les termes, mais qui va être une action de plus grande ampleur.
Bien, merci Pierre Rebec de ces précisions. On va essayer de suivre un peu ce dossier et voir comment tout cela évolue, et voir si le préfet a pris la mesure d'une décision qui paraît aussi inutile que stupide.
Merci de vous être intéressé à notre situation, et nous sommes évidemment à votre disposition pour vous fournir les éléments dès qu'il y aura du nouveau, je vous en ferai pas.
Merci Pierre Rebec, à bientôt, au revoir.
À bientôt, merci.
Voilà, bien écoutez, je vous propose maintenant d'entendre le témoignage du plus proche voisin du col de Bagnoux, Ramon Faure-Labatte, qui est admirablement bien placé pour voir ce qui se fait sur ce col, qui passe, qui ne passe pas. Donc nous allons l'appeler et il va nous livrer son témoignage, Ramon Faure-Labatte. Ramon Faure-Labatte, bonjour, merci
bonjour.
De nous consacrer quelques minutes. Alors vous êtes, de ce que j'ai compris, un des plus proches, et peut-être le plus proche, habitant du col de Bagnoux.
Oui, tout à fait. J'habite une partie du temps au Mascornet, que je restaure. Bon, depuis 25 ans, je suis depuis tout jeune, depuis tout petit, donc à 1 kilomètre à vol d'oiseau du col de Bagnoux.
Alors la question que je pose à tous mes interlocuteurs, c'est pourquoi il est fermé ? Et quand on me dit pourquoi il est fermé, notamment la préfecture, en me disant ben, on a peur des horribles terroristes, du trafic, de l'immigration, mais on dit quand même il y a 4 cailloux au milieu de la route, aussi gros soit-il, ça n'empêche rien. Ouais. Est-ce que vous, qui êtes bien placé, est-ce que vous constatez que c'est une voie, une autoroute à terroristes ou à immigration ?
Non. Le col de Bagnoux, depuis qu'il y a les cailloux, il y a carrément plus personne qui passe. Et avant, c'était des Catalans du Nord ou des Catalans du Sud qui passent d'un côté de l'autre, qui ont des échanges réguliers. Moi, au Mascornet, s'il y avait des hordes sauvages ou etc., on aurait eu des soucis au Mas, et on n'a jamais eu aucun souci en me baladant, en courant et dans le Mas qui est au bord de, enfin, à côté de la route. Je confirme qu'il n'y a aucun problème. Je pense que les excuses de la préfecture, bon, sont un peu légères au début. Même j'avais entendu dire que c'est à cause du Covid. Après c'était à cause de... Voilà, bon, c'était un peu sur tout le long de la frontière espagnole. Il faut dire que même au Pertus, l'autoroute, il y a toujours la moitié des guichets d'autoroute fermés. On dirait que l'Europe et le traité de Schengen ne sont pas réellement respectés par l'État français, parce que même Quatremer, le journaliste spécialiste en Union européenne, disait que lui, qui va souvent à Bruxelles, ben, la frontière entre la France et Bruxelles est toujours embouteillée, parce qu'il y a la moitié aussi des postes d'autoroute fermés. Voilà, c'est Je pense que c'est l'état d'esprit de l'État français par rapport à ça qui pose problème.
Ramon Fauré, là-bas, quand on regarde un peu les Pyrénées, quand on connaît un peu la région, il y a le col de Bagnoul, certes, mais enfin, ce n'est pas le seul. Il y a des points il y a une infinité de points de passage que certains, d'ailleurs, connaissent très bien.
Voilà, mais surtout qu'on sait bien qu'en fait, ça se passe surtout entre Porvoo et Cerbère.
Ben oui.
Les passages des clandestins encore aujourd'hui, voilà, et à tous les... ils sont pris en France, on les ramène en Espagne, ils reviennent en France, on les ramène, ils reviennent, bon, c'est... Voilà, il y a une situation compliquée, autant pour ces personnes sans papier, immigrés, tout ça, et puis pour les habitants, c'est sûr qu'il y a des difficultés, mais c'est évidemment pas en mettant des cailloux au col de Bagnoul qui gêne plus les habitants frontaliers. Alors moi, par exemple, au Mascornedge, pour aller à Espoy, il faut que je descende à Bagnoul, que je reparte à Porvoo, que je reparte à Espoy, c'est plus d'une heure et demie, quoi. Alors que normalement, je suis à un quart d'heure.
Alors vous avez peut-être, vous qui êtes bien placé, vous avez peut-être vu passer le cortège préfectoral, puisqu'il paraît que le préfet est venu sur le site il y a quelques jours.
Je l'ai pas vu. Mais
voilà, on s'est rencontrés, on a parlé avec le préfet qui va réévaluer. En fait, la réévaluation me semble toute faite, mais ça, c'est l'avis de la préfecture. Qu'est-ce que, à votre avis, parce que toutes ces excuses-là qu'on nous a données, on sait que techniquement, en matière de sécurité publique, elles ne tiennent pas, absolument pas la route. Qu'est-ce qui peut motiver le fait que, parce que c'est pas le préfet qui l'a décidé, que les Parisiennes disent... on va, alors c'est pour agacer le catalan, français, espagnol, c'est une brimade, c'est comment faut-il le voir?
Ben justement, comme je disais, en Belgique ils ont aussi des problèmes à la frontière, il y a un peu des problèmes partout, et je crois que et il faut dire aussi au Pertus, le poste frontière au Pertus, la France a eu pendant 20 ans des amendes de l'Union européenne pour pas l'avoir démonté, ils l'ont maintenu un maximum de temps, donc la France a du mal à se séparer de ses frontières. Dans l'Union européenne, les frontières sont censés tomber au fur et à mesure. Je crois que c'est à ce niveau-là, c'est plus... il y a une partie psychologique, mais aussi peut-être économique, parce que c'est vrai que peut-être ils considèrent aussi que beaucoup de Français vont en Espagne, ou des Catalans du Nord vont en Catalogne du Sud, dépenser leur argent au Sud, bon, et c'est vrai qu'on les dépasse en Catalogne du Nord.
Quand on a envie d'aller acheter un peu d'huile d'olive espagnole, voilà. Ça n'empêche pas grand-chose, si ce n'est que ça nous coûte plus cher, et c'est surengéri, surtout par le coût aujourd'hui du carburant, donc ça commence à faire beaucoup.
Oui, voilà, c'est finalement, ça ne... Mais en dehors de ça, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi l'État français, parce que le préfet en lui-même, il y en a eu trois de préfets depuis le troisième, là. Hein.
Oui, oui.
Donc, bon, ils ne sont qu'aux ordres de Paris, hein, donc ce n'est pas eux qui... Bon, ils font peut-être des fois un peu de zèle, mais disons que c'est une directive nationale. Et voilà, je crois que la France a toujours eu du mal à se séparer de ses frontières et à respecter ce traité de Schengen, et pas uniquement entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud, mais un peu partout. Après, peut-être que certains territoires se sont soulevés plus tôt ou de façon plus claire, et ils ont ouvert certains cols au Pays Basque ou même ici à Coustouges. Il y avait une grosse manifestation et ça finit par être ouvert. Bon, peut-être il fallait un soulèvement à Bagnoul, c'est avec cette association qui s'est créée, ça va donner plus de poids. Il y a eu un impact déjà médiatique pour que Jean Quatremer en parle sur Twitter en disant que c'était une honte ce qui se passait à Bagnoul, c'est en comparant justement avec la frontière franco-belge. Je pense que ça fait bouger, ça arrive jusqu'au sommet de l'État et ça devient un peu ridicule, quoi.
Bon, on va croiser les doigts et espérer que ce ridicule qui ne tue pas, mais qui finit quand même par un peu plomber l'ambiance et plomber l'économie et les libertés locales.
Voilà, les échanges nord-sud. Moi, en plus, je suis président d'une association qui s'appelle Angeles de la Terre. Actuellement, on est en train de développer des jumelages entre les communes du Nord et du Sud. Le maire de Bagnouges, le maire de Port-Vendres, le maire de Collioure, le maire de Cervères font partie. Bon, il y a 120 communes du département des Pyrénées-Orientales qui en font partie. Et il y a déjà une quinzaine de communes en Catalogne Sud, dont Espoy, qui en font partie. Et nous, justement, si on fait ça, c'est pour effacer ces frontières et pour libérer justement les échanges entre le Nord et le Sud, les frontières qui sont physiques et aussi psychologiques, parce que cette frontière qui date du traité des Pyrénées en 1659, elle a séparé des familles, les échanges entre le Nord et le Sud qu'on veut justement de nouveau impulsé, et là ça va complètement à l'encontre de ce projet-là qui est porté au niveau municipal, mais qui est celui de l'Union européenne.
Raymond Frelbat, je crois qu'on vous a bien entendu. Merci en tout cas ce témoignage, et bien sûr on va continuer à suivre le dossier. Peut-être que dans quelques jours ou quelques semaines, nous serons amenés à nous reparler. En tout cas, merci de nous avoir parlé de votre expérience directe du blocage du col de Bagnouls. À bientôt, Ramon Frelbat.
Adieu.
Voilà, et bien écoutez, je vous propose, avant d'entendre finalement de donner la voix à la défense, c'est toujours elle qui termine, nous le savons, je vous propose de faire une pause musicale pour souffler un peu, et puis puisqu'on est en Catalogne aujourd'hui, on va y rester en écoutant, bien évidemment, vous vous en doutez, un peu de Sardane. Voilà, c'était donc couleur locale, la sardane, hein, qui est une vieille tradition musique, mais surtout une danse que l'on pratique toujours assidûment, d'un côté comme de l'autre, des Pyrénées. Alors, la préfecture des Pyrénées-Orientales, bien évidemment, je l'ai contactée le 9 septembre par téléphone. j'ai eu le responsable du service de la communication. On m'a rappelé pour me dire que le préfet n'était pas disponible ce jour pour une interview, ce que je peux comprendre, mais qu'on pouvait lui poser des questions par écrit et qu'il y répondrait. Je me suis donc exécuté immédiatement et voilà ce que j'ai écrit. Monsieur le préfet, je prépare une émission sur le col de Bagnouls et surtout sur sa fermeture par l'autorité administrative. Ma principale interrogation, qui n'est pas originale, porte sur le motif invoqué par l'État pour justifier cette atteinte à la liberté de circulation des citoyens français et espagnols, puisque nous sommes dans une zone frontalière. Pourquoi se fermer ce col qui dessert un accès extrêmement commode à l'Espagne ? Pourquoi avoir pris la décision de le fermer et à l'avoir pris cette décision de le fermer, pourquoi limiter cette décision au seul véhicule laissant l'accès libre aux piétons, de roues ou autres ? Il existe dans ces montagnes une infinité de points de passage, pourquoi avoir uniquement ciblé le col de Bagnouls ? J'ai cru comprendre que l'un des motifs invoqués serait la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Si cela a été, je vous remercie de m'expliquer comment quatre pierres posées au milieu d'une route pourraient avoir une quelconque efficacité pour éradiquer ces phénomènes, voire même seulement les ralentir. Je vous remercie par avance de vos réponses et éclaircissements que je rapporterai in extenso à l'antenne. Je vous prie d'arriver, monsieur le préfet, etc. Deux jours après, le préfet m'a répondu par l'intermédiaire de la responsable de sa communication. Et comme je m'y étais engagé, voilà la réponse du préfet. Monsieur, voici les réponses de monsieur le préfet à une partie de vos questions, bien cordialement, etc. Donc déjà, ça commence mal puisqu'on me dit une partie de vos questions. Voilà ce que m'écrit le préfet, ou sa responsable de la communication sous son autorité. La fermeture du col de Bagnouls a été décidée dans un contexte de menace sécuritaire. Elle a pour objectif de limiter les moyens de franchissement de la frontière et ainsi de concentrer les forces de sécurité intérieure sur un nombre plus réduit de points de passage afin d'améliorer l'efficacité des contrôles. Plusieurs points de passage ont ainsi été fermés sur la chaîne pyrénéenne et par ailleurs, les forces de l'ordre ont été renforcées au contrôle des frontières. Le préfet ajoute, il ne s'agit pas du seul point de passage concerné par ces mesures. Plusieurs points de passage de desserte locale ont ainsi été fermés pour permettre un meilleur contrôle. Ce point de passage a une vocation principalement locale et comporte des alternatives à proximité. Une évaluation est actuellement en cours pour mesurer les conséquences d'une éventuelle réouverture, notamment au regard des risques de report des flux de l'immigration clandestine et du trafic de stupéfiants. Fermez les guillemets. Voilà la réponse au préfet. Voilà, donc il l'a annoncé lui-même, il ne répond qu'en partie à mon interrogation. Et je n'oserais pas dire qu'il s'agit de langue de bois administrative, mais je ne suis pas loin de le penser. Donc, quelles conclusions tirer de cette affaire ? Eh bien, tout d'abord, me semble-t-il, par touches successives, presque insensiblement, les libertés des Français sont rognées. Tellement insensiblement d'ailleurs qu'aujourd'hui, plus personne ne s'en formalise ou à tout le moins très peu de personnes. Vous connaissez certainement l'histoire de la grenouille plongée dans une eau que l'on réchauffe peu à peu et qui ne s'en plaint pas. Eh bien, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes la grenouille. On peut aussi en conclure que nous assistons, et là je vais citer François Sureau dont j'ai parlé en liminaire et en démarrant cette émission, François Sureau écrit la chose suivante, et je le cite, « Nous assistons à la démission des acteurs principaux de la démocratie représentative face aux réquisitions intéressées des agents de la répression », fermez les guillemets. Tout ça veut dire que les gouvernements successifs, les parlementaires de tous bords, qu'ils soient d'ailleurs de gauche comme de droite, ont cédé, ont bradé nos libertés par facilité, par lâcheté, par inculture, légèreté ou démagogie. La France est connue, et vous le savez, il suffit d'écouter nos hommes politiques, pour son travers consistant à donner des leçons de droits de l'homme à la terre entière. Malheureusement, ce n'est qu'une posture, puisqu'elle n'applique pas chez elle les grands principes qu'elle prône urbi et orbi. La demande de sécurité est bien évidemment normale, mais y répondre par une diminution des libertés ne résout rien en matière de sûreté, et maints exemples le prouvent, ce n'est plus à discuter. Mais cela a toujours son petit effet, bien sûr, vis-à-vis de l'électeur. Le citoyen disparaît progressivement transformé qu'il est en sujet, il démissionne de son rôle, et on peut même se poser la question, est-ce qu'un horizon chinois se profile ? Alors je laisse la question pendante, elle est peut-être un peu exagérée, mais au train où vont les choses, on peut quand même se la poser. Laissons le dernier mot à un de nos grands anciens, et qui nous disait, qui écrivait, « La mode est aujourd'hui d'accueillir la liberté d'un rire sardonique, de la regarder comme vieillerie tombée en désuétude avec l'honneur. Je ne suis point à la mode. Je pense que là, sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. » C'était François-René de Chateaubriand qui écrivait ça au début du XIXe siècle. Eh bien, nous sommes ainsi quelques-uns, à l'instar de Chateaubriand, à ne pas être à la mode. Si vous voulez poursuivre cette réflexion et si vous voulez aller plus loin, François Sureau, « Sans la liberté », c'est dans la collection Trac Gallimard. Ça coûte 3 fois rien, 3,90 €. C'est un fabuleux texte d'un magistrat, avocat, écrivain. C'est très bien écrit d'abord. Et ensuite, il fait un point sans concession sur ces gouvernements successifs qui ont entrepris de rogner notre liberté. Et puis pour terminer cette émission, ben écoutez, il faut quand même, on ne va pas rester sur cette note négative, voire pessimiste. On va essayer de mettre un peu de douceur dans ce monde sinon de brut, du moins empreint de stupidité. On va parler culture, on va parler musique, on va parler chant, on va parler opéra. Et je vous propose d'écouter Monsieur Jean-Marc Andrieux, qui est chef d'orchestre de Les Passions et qui anime... D'abord, un festival du 1er au 9 octobre 2022, il va nous en parler, Passion Baroque, et qui aussi va accompagner le seul opéra en langue occitane qui existe, qui s'appelle Daphnis et Alcimadur, qui a été écrit par M. Mondonville, qu'on va pouvoir entendre bientôt à Montauban et à Toulouse. Et tout ça, il va nous l'expliquer. Écoutons Jean-Marc Andrieux. Jean-Marc Andrieux, bonjour, merci d'être monté jusqu'à notre studio. Vous êtes chef d'orchestre Les Passions, de l'orchestre Les Passions, oui. Et vous allez intervenir dans le festival de Montauban qui s'intitule Passion Baroque du 1er au 9 octobre 2022, donc on y est presque.
Oui.
Et vous êtes aujourd'hui venu à l'Hostal d'Occitanie pour parler aussi de l'opéra occitan. Il n'y a qu'un opéra en occitan, donc il faut en parler, que vous allez donner bientôt. Ça s'appelle Daphnis et Alcimadur.
Exactement, oui, bonjour. Donc on va dire Daphnis et Alcimadur.
Oui, vous pouvez le dire aussi comme ça, oui.
Oui, oui, c'est le seul opéra de l'époque baroque qui a été écrit en occitan.
Voilà, pourquoi n'y a-t-il eu qu'un opéra?
Alors, je pense que à ce moment-là, en France, au XVIIIe siècle, les Parisiens, essentiellement, préféraient entendre... des opéras en français, ils aimaient bien comprendre les paroles. Donc ils n'aimaient pas les Italiens, il y a eu une querelle à ce moment-là.
Oui. Ils n'aimaient pas les Allemands non plus.
Ils n'aimaient personne, quoi. Finalement, ils n'aimaient que le français. Donc cette expérience de Mondonville, puisque c'est ce compositeur-là qui a écrit cet opéra...
1754.
Exactement, vous savez tout.
Oui, et c'est donc, surtout marqué sur mon papier.
il est originaire de Narbonne.
Jean-Joseph Cassanea de Mondonville.
C'est ça. C'était un grand virtuose du violon, compositeur de la Chapelle Royale, compositeur de la Chambre du Roi. Il écrivait aussi des opéras. Et il a eu l'idée, avec ses collègues chanteurs, qui étaient les stars à l'époque, c'était des méridionaux. Il y avait Marifel, une bordelaise, il y avait Géliot, qui était un palois, et il y avait Latour, qui était un toulousain. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas faire un opéra dans notre langue maternelle, l'occitan. Enfin, quand on dit occitan, il faut faire attention. C'est plusieurs langues réunies dans le sud de la France. Donc, voilà. En languedocien et en gascon, essentiellement.
D'accord. Alors ça, vous allez jouer cet opéra le samedi 1er octobre au Théâtre Olympe de Gouges, qu'on connaît bien, hein, puisque ici... On a interviewé, on a fait une émission d'ailleurs au théâtre avec la directrice du Théâtre Olympe de Gouges. Ce sera à 20h30 et le mercredi 12 et jeudi 13 octobre à 20h, vous serez au Théâtre du Capitole.
Exactement.
Oui. Alors il y aura pas mal de monde. Hein. On aura Élodie Fonard qui joue Alcimadur, François-Nicolas Gélot, Daphnis. Il faut les citer parce qu'on ne cite jamais trop.
Oui, et puis vous voyez, ils ne sont pas très nombreux, ça
oui,
va.
Oui, voilà, aussi, ça me facilite le travail. Fabien Ayonne qui est Jeannet, Hélène Lecor qui jouera Clément Cisor, qu'on connaît bien à Toulouse.
Oui.
Il y aura également Joël Subiette avec son chœur, Les Éléments.
Oui, Les Éléments, hein. Le chœur avec et qui on travaille régulièrement.
Et puis votre orchestre baroque que vous dirigez, Les Passions. Donc ça va être une belle, un bel événement et on invite tous les Toulousains à aller soit à Montauban, soit à Toulouse, quand même peut-être plus commode d'aller à Toulouse.
Oui.
Bien que le théâtre Olympe de Gouges ait beaucoup de charme.
Il est sympathique, oui, mais enfin bon, on a le Capitole à portée de la main, autant en profiter.
Tout à fait. Alors tout ça, ça s'inscrit dans ce festival qui s'appelle Passion Baroque.
Oui, depuis, c'est la 8e édition, ça fait un moment qu'on organise en octobre, depuis quelques années, là, ce festival qui présente essentiellement de la musique ancienne, musique baroque. Et le thème cette année, c'est la Méditerranée. Alors pourquoi la Méditerranée? Parce que je voulais inclure Daphnis Alcimadur dans la programmation. Et comme Mondonville est né à Narbonne, on est près de la mer, je me suis dit on va pouvoir trouver un joli thème. Et donc il y a deux autres concerts très importants, Les Éléments avec Méditerranée Sacrée, et puis le Concerto Soave et de Jean-Marc Heim, un ensemble merveilleux de Méditerranée aussi qui viendra avec un programme, avec un chanteur qui nous vient de Palestine.
Vous avez aussi un documentaire, je vois, samedi 1er octobre à 16h, Espace des Augustins Montauban, sur justement Daphnis et Alcimadur.
Oui, on a tourné un documentaire à l'occasion d'opérations pédagogiques avec le CIRDOC, en lien avec le CIRDOC, nos amis de Béziers, que je salue. Donc on a fait des actions pédagogiques à Béziers et à Vauvert. C'était en mars dernier, si je me souviens bien.
Il y a de belles choses à Vauvert.
Oui,
notamment une maison d'édition qui s'appelle Le Diable Vauvert et dont je me flatte d'avoir été le créateur.
Ah super, mais bravo, félicitations.
Oui, j'étais pas seul, j'étais avec Marion Mazori, à qui revient d'ailleurs tout le mérite.
Très bien, et donc on a fait des présentations à des enfants et ça fait l'objet d'un documentaire tourné par OCTV en collaboration avec le CIRDOC, et ce documentaire sera projeté aussi à l'occasion du festival.
Et le samedi 1er octobre à 18h, donc j'évoquais tout à l'heure Daphnis Alcimadur, ce que vous venez d'expliquer, le documentaire, vous avez aussi une causerie, si je puis dire, vous avez appelé avant-scène.
Oui, c'est une formule qu'on a mis en place depuis quelque temps, qui obtient du succès. Les gens, ils viennent plus tôt et il y a un petit dialogue, un petit échange. Alors il y aura Christophe Gristi, le directeur du Capitole, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir à Montauban pour parler. Et Joël Subiette, qui parlera aussi de son cœur, Les Éléments. Donc une petite causerie à trois et un échange avec le public.
Après, donc beaucoup de concerts, tous au Théâtre Olympe de Gouges. Oui, non, il y en a au Château de la Motte.
Il y en a que deux au Théâtre Olympe de Gouges. Et puis après, on va un petit peu s'exporter dans le département de Tarn-et-Garonne, puisqu'on a vocation aussi à rayonner dans le département. Donc Château de la Motte-Bardigue, d'autres endroits.
Médiathèque de Montauban.
Oui, voilà. Église de Saint-Joseph.
Château de la Motte.
Château de la Motte. Bardigue. Très, très beau. Alors un château 18e siècle qui est resté, pardonnez-moi l'expression, dans son jus. C'est-à-dire que la Révolution ne l'a pas abîmé et vous rentrez dans le château comme si vous étiez à l'époque de Louis XV. C'est magnifique.
Et puis, bon, quelque chose dont le titre me va droit au cœur, Amour italienne, samedi 8 octobre à 20h30 à l'église de Gignargues, puis Cornet.
C'est un petit village, pas loin de Montauban. Oui.
Abbaye de Beaulieu en Rouergue, en taille.
En taille, vous savez que l'abbaye, elle a été réouverte, elle a été restaurée par les bâtiments nationaux. C'est une opération très importante qui a mis en lumière toute une collection de peintures contemporaines qui appartenait à Geneviève Bonnefoy, qui était collectionneuse. C'est la plus grande collection privée de France qui est exposée maintenant à l'abbaye de Beaulieu, notamment des tableaux de Simon Antaille, un des grands peintres du XXe siècle, dont les trois enfants sont musiciens. Donc j'ai invité Pierre Antaille, claveciniste, à venir jouer avec nous dans les tableaux de son père. C'est quand même pas mal.
Il y aura un moment d'émotion.
Il y aura un moment de grande émotion pour tout le monde.
Jean-Marc Andrieux, je vous remercie. On rappelle Daphnis et Alcimadur, l'Opéra Occitan, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, parce que je voulais juste dire,
j'ai peur d'oublier de rappeler que quand même, on va chanter en occitan, et les chanteurs vont être coachés, pardon pour ce mot qui n'est pas très occitan, mais enfin,
pas vraiment, non.
Qui vont être
cornaqués,
voilà, très bien, par Muriel Badbier-Castel, qui, elle, est professeure d'occitan et qui va surveiller la bonne prononciation de l'occitan dans l'opéra.
Voilà, c'est même elle, je crois, qui a fait les annonces dans le métro en
Exactement,
occitan.
Exactement, c'est elle.
On la connaît.
Estacius.
Voilà. Oui, c'est parfois un peu curieux, surtout quand on est dans des quartiers un peu excentré.
Oui.
Où l'on parle aussi d'autres langues.
Langues.
Donc, Daphnis et Alcimadur, l'opéra occitan, Passion baroque, j'imagine qu'il y a un site où on peut aller se renseigner, il y a une billetterie, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut, vous tapez sur le site des Passions. Et après, je voulais aussi quand même rappeler aux gens, pour ne pas les affoler, que s'ils ne connaissent pas l'occitan, ce sera surtitré. Ce sera l'occasion de prendre une leçon d'occitan facile.
Oui, vous savez, ils ne connaissent pas l'occitan, ils ne connaissent pas l'italien non plus, ni l'allemand, donc ça ne les empêche pas d'aller à l'opéra. Merci Jean-Marc Andrieux, on souhaite une pleine réussite à Daphnis et Alcimadur et aussi à Passion Baroque.
Et merci.
Superbe programme, superbe chanteur et musicien.
Merci pour votre accueil.
Avec grand plaisir et à bientôt certainement. Voilà, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette émission. Merci à Shelian Yamada qui était à la technique et au montage. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.